Place Info.
Bonsoir. À la une, le tollé sur l'huile de palme. Ségolène Royal qui va porter plainte après l'enquête de la cellule investigation de Radio France. Et notre grand dossier dans les informés, gilet jaune, un an plus tard, Emmanuel Macron toujours face à la colère sociale. C'est avec nos invités Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, avec Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, avec Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzin, et avec François Boulot, avocat, porte-parole des Gilets jaunes à Rouen, auteur de La Ligne jaune aux éditions Les Indigènes. Bonsoir à tous les quatre et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. L'affaire s'est jouée en un instant. Hier soir, à l'Assemblée nationale, le vice-président socialiste en séance, David Habib, au perchoir, soumet au vote un amendement apparemment, on va dire, anodin. Écoutez, regardez, ça dure une poignée de secondes.
Monsieur le rapporteur.
Défavorable.
Monsieur le ministre. Favorable. Je mets aux voix le 29-01, avis favorable de monsieur le ministre. Défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre, il est adopté.
Et voilà, ça se passe comme ça à l'Assemblée nationale, qui vient donc de voter, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, la réintégration de l'huile de palme au biocarburant jusqu'en 2026, et c'est le tollé. Le texte va donc revenir ce soir, peut-être avec un débat, et il sera soumis au vote. Roselyne Fèvre, de mémoire de journaliste qui couvre ces événements, on va dire parlementaires, c'est pas si courant quand même.
Non, c'est pas si souvent. Alors, on a vu quand même parfois des amendements qui ont été votés comme ça en pleine nuit, en catimini,
en cachette. Quasiment.
Et c'est un peu ce qui s'est passé.
Mais là, il est 17h, là.
Oui, oui, c'est vrai, mais ça a été aussi, je crois, discuté dans la nuit. Ça n'a pas été discuté,
non,
d'ailleurs,
pas du tout.
Qu'il n'y a pas eu de débat. Mais je pense que vous dites que ça a été en un instant. Moi, je dirais que ça a été en quatre temps, en réalité, parce que il y a un an à peu près, Total avait décidé d'ouvrir sa raffinerie et ça avait été autorisé par le gouvernement, puisque Total ne fait rien sans l'autorisation du gouvernement. Donc l'idée, c'était de faire venir, au lieu de faire venir du biocarburant, c'était dit, bon, on va le fabriquer. Et là-dessus, ça permettait de conserver des emplois, mais ça allait coûter cher. Donc, il y a eu cet avantage fiscal qui a été fait. Dans un deuxième temps, finalement, le Parlement se dédie. Il dit non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, ça se termine. Troisième temps, c'était hier, cet amendement qui débarque de nulle part. Et le quatrième temps, eh bien, c'est ce soir où ça va être revoté. Donc, en fait, moi, ça m'inspire une chose. C'est que le gouvernement, dans le fond, qui pourtant met au panthéon de sa diplomatie l'écologie, eh bien, le gouvernement veut défendre les emplois et les parlementaires disent « on s'en fiche, nous, c'est l'écologie ».
Franck Dedieu, vous diriez qu'il y a eu lobbying de Total ?
Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ma consoeur qui dit que ce n'est pas tout à fait une étourderie. Pardon, mais elle a fait un petit peu l'état des lieux et on ne vote pas ça de façon totalement, je dirais, hasardeuse.
Mais impassif. Oui.
Voilà, ça dit quand même deux choses. La première chose, effectivement, il y a un véritable lobby et qui a fonctionné auprès des députés de la majorité, je parle du MoDem, de l'REM, en particulier dans les Bouches-du-Rhône, puisqu'il s'agit d'une usine de traitement dans les Bouches-du-Rhône.
Alamed.
Voilà,
Total
exactement. Alamed, oui. Et puis aussi, pardon de le dire, mais un autre dysfonctionnement, une autre cacophonie au sein du gouvernement, parce que vous avez quand même Édouard Philippe qui demande un deuxième examen et le représentant du gouvernement qui approuve le texte. Donc, cela, je veux dire, on a l'impression qu'à chaque sujet est le prétexte de mettre sur la table une forme de dissension au sein du gouvernement comme au sein du Parlement. On pourrait faire une longue liste, en particulier dans le domaine écologique, on l'a vu il y a quelques heures, mais aussi sur le CETA, il y a eu des imbroglios. Ouais. Ça dit quelque chose qui n'est pas simplement une tourderie, mais quelque chose de plus fondamental.
Alors, je poursuis ce premier tour de table. Tout d'abord, je vous fais écouter une réaction, celle de Laurent Saint-Martin au micro de la chaîne parlementaire LCP, le député LAREM du Val-de-Marne, un petit peu gêné aux entournures.
La grande partie de l'Assemblée nationale à ce moment-là n'a pas bien compris de quel amendement on parlait, tout simplement parce qu'il n'a pas été discuté. L'amendement a été défendu, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'a pas été développé dans son argumentaire. Et puis il y a eu des avis au banc sans explication. Et je crois que beaucoup de gens ont suivi le gouvernement sans bien savoir de quoi il s'agissait. Quand vous avez des centaines et des centaines d'amendements à la suite, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais la majorité était pourtant très majoritairement contre l'adoption de cet amendement.
Alors la majorité était contre, Éric Delannoy, Cacophonie, bourde, couac, on appelle ça comment ?
Vous savez, à chaque fois qu'il y a un prétexte à faire en sorte qu'il y ait une cacophonie, on le saisit. Donc je ne suis pas très étonné. Hein. Comme on vient de l'évoquer là, c'est le problème du fonctionnement de l'Assemblée. Je rappelle quand même qu'il y a eu une tentative de réformer par la loi le fonctionnement de l'Assemblée, que ça a aussi provoqué un tollé sur le thème « il y a une atteinte à la démocratie parce qu'on ne veut plus faire en sorte qu'on débatte ». Donc ça a été un peu rangé. Quand on vote 300 amendements et qu'effectivement c'est pas débattu comme on vient de le voir là, on ne peut pas s'étonner qu'il y ait de toute façon des couacs. C'est évident. Maintenant, je ne suis absolument pas solidaire du fait que c'était voté, et je suis très content qu'on revienne sur ce sujet-là. En termes d'efficacité, il me semble que ça traduit une écoute. Si on était parvenu dessus, on aurait dit le gouvernement subit le lobby de Total, on revient dessus, on dit il y a cacophonie. En fait, on ne fait encore une fois jamais comme il faut.
Le gouvernement est raisonnable à cet endroit-là, selon vous, François Bouleau?
Moi, je crois que cette histoire illustre effectivement l'influence des lobbies, en l'occurrence Total, qui influence la politique gouvernementale. De toute façon, on a le gouvernement des lobbies. Je veux dire, Édouard Philippe, il a travaillé pour Areva. Vous avez Agnès Buzyn qui a travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et de manière très claire, vous avez un gouvernement qui prétend être écologique, mais ne l'est pas du tout. On sait qu'il signe le CETA, et donc on va faire importer de la viande depuis le Canada, qui va évidemment polluer. On n'a pas besoin d'importer de la viande depuis le Canada. Et puis, je rappelle également qu'Emmanuel Macron, comme acte fondateur de la transition écologique, il voulait appuyer sur la finance. C'est totalement antinomique. C'est-à-dire que la finance, c'est le profit à court terme, alors que l'écologie nécessite d'avoir une vision à long terme et qui ne soit pas conditionnée uniquement par le profit. Qu'on a la confirmation là que le gouvernement sert toujours les intérêts particuliers plutôt que l'intérêt général.
Ah, le décor est planté. On va rester sur... Oui, Éric Delannoy veut faire un commentaire. Oui.
Non, mais j'espère qu'on va un peu élever le débat parce que repartir sur les vieux poncifs que la finance, c'est le court terme et que la finance ne fait rien,
oui, bien
etc.
Sûr, je le démontrerai. Hein.
C'est un peu... Moi, ça fait 30 ans que je suis dans la finance. Il y a bien évidemment des excès comme partout, comme quelquefois dans certaines manifestations. Mais néanmoins, la finance est très utile à l'économie. C'est ce qui a permis de la développer depuis le XVIIe siècle.
Allez, 20h10 sur France Info. Nous marquons une pause avec le rappel de l'info. Et vous, Steven Goyer?
Je vais porter plainte pour diffamation. Réponse de Ségolène Royal aux révélations de la cellule d'investigation de Radio France. L'enquête pointe une utilisation contestable des moyens fournis par le Quai d'Orsay pour assurer sa mission d'ambassadrice des pôles. 190 000 foyers toujours privés d'électricité dans 6 départements. Dernier relevé du gestionnaire de réseau Enedis. En cause, les câbles électriques endommagés par les fortes chutes de neige ces 24 dernières heures. Le gouvernement vient en aide aux communes sinistrées après le séisme subi dans la Drôme et l'Ardèche. Une enveloppe de 2 millions d'euros pour reconstruire les bâtiments publics touchés est destinée aux communes reconnues en état de catastrophe naturelle. Deux hommes proches de l'ultra-droite interpellés dans le cadre de l'enquête sur un projet d'attentat contre Emmanuel Macron. Âgés de 30 et 45 ans, ils ont été arrêtés lundi en Moselle. Leur domicile a été perquisitionné. Les diplomates vénézuéliens en Bolivie priaient de faire leurs valises expulsées par le gouvernement autoproclamé de Jeanine Agnès qui reproche à Caracas une ingérence dans les affaires intérieures de la Bolivie.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors les députés signataires dans cet amendement qui va être donc rediscuté, revoté ce soir, faut-il le rappeler, ont expliqué qu'ils, au fond, voulaient laisser une période transitoire suffisante de stabilité fiscale et réglementaire aux acteurs économiques français, donc en l'occurrence la firme Total. Écoutez ce qu'en a dit Nicolas Hulot en marge de la 3e convention citoyenne pour le climat à laquelle il participait au Conseil économique, social et environnemental à Paris.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi ça a surgi en pleine nuit, ou alors je ne le sais que trop bien. Mais enfin, franchement, de prolonger ça avec les informations qu'on a sur le rôle néfaste de l'huile de palme, sur la biodiversité, sur le climat, cet avantage, on a eu le temps de l'anticiper. Donc maintenant, de le prolonger en 2026, ça veut dire que c'est au-delà du quinquennat. Donc c'est pas cohérent avec le plan climat que j'ai engagé. Mais bon, on va pas en faire un foin si ce soir les choses sont remises. On a le droit de temps en temps, voilà. Mais j'espère que on va revenir à une forme de raison tout à l'heure.
Franck de Dieu, il faut rappeler que les députés avaient adopté l'an dernier la sortie de l'huile de palme des biocarburants à compter du 1er janvier 2020.
Ben maintenant, ça sera 2026. Enfin, on verra quel sera le deuxième examen. Mais au-delà de ça, effectivement, il insiste sur finalement le même point qui justifiait sa démission. C'est la forme de contradiction fondamentale entre des valeurs auxquelles Emmanuel Macron croit, et je pense sincèrement, le libre-échange, le libéralisme, le capitalisme plus ou moins dérégulé, eh bien tout ça, cela est un facteur, je dirais, d'émissions de carbone et va à l'encontre des règles, je dirais, de respect de la nature. Donc au bout d'un moment, eh bien, À chaque fois qu'il y a un événement qui met en lumière cette contradiction, elle apparaît dans sa vérité crue. Et là, encore une fois, et demain, il y aura encore d'autres sujets pour mettre cette contradiction entre la finance, pardon de le dire, et ce capitalisme un peu libéralisé, ouais. et finalement l'écologie. Il y a un moment donné où il faudra se dire que pour que les deux aillent de conserve, eh bien, il faut réduire les distances, il faut démondialiser.
Éric Delannoy, par rapport à ce que dit Nicolas Hulot, quel est le réel au fond ?
Le réel, c'est que effectivement, il y a une bourde. Si c'est pas juste un problème de procédure, j'ai moi la conviction et j'ai l'espoir que cet amendement soit abandonné, bien évidemment, parce que je crois à une politique écologique de ce gouvernement. D'autant plus que c'est d'autant plus stupide que l'enjeu du lobbying dont on parle, il est absolument ridicule. Enfin, je veux dire, on parle d'un avantage fiscal de 80 millions d'euros par rapport à une société qui a fait l'année dernière 14 milliards d'euros de bénéfices, c'est-à-dire 0,05% de ses bénéfices, ce qui est juste stupide. Donc, quand on parle de revoir certaines niches fiscales, là, il y en a une, manifestement, qu'on devrait éliminer. Ça serait extrêmement clair. Et ça ne gênera pas beaucoup de monde. Quant à sauver des emplois, j'y crois pas non plus une demi-seconde. Quand on est une entreprise comme Total, on assume ses choix technologiques. On le finance sans besoin d'avoir une niche fiscale qui est totalement injustifiée par rapport à une politique qui devrait reléguer
le... Ça n'est qu'une affaire de profit, selon vous, Roselyne Fay? Parce qu'en fait, oui, Éric Delannoy. Parce que là, il y a une estimation, hein. C'est 70 à 80 millions d'euros. Mmh. C'est ce que disaient notamment les amis de la Terre, l'association.
C'est un des seuls avantages de cet amendement, c'est de réinjecter 80 millions d'euros pour Total, ce qui est juste absurde. Ça n'a pas de sens.
Eux considèrent que ça coûte cher. Plutôt que de faire venir les biocarburants, on les fabrique. Donc, c'était un peu du donnant-donnant. Je fabrique ces biocarburants, mais en échange, j'ai une ristourne fiscale. Alors, vous parliez tout à l'heure du capitalisme. Je crains qu'aujourd'hui, en France, même avec nos petits bras, ou même Emmanuel Macron, on ne résolve pas le problème du capitalisme aujourd'hui.
Il y a une tentative pourtant.
Il y a une tentative.
La loi Pacte, vous devriez la soutenir, je pense.
J'entends bien, mais c'est parce que je dis...
Mais
je pense que le capitalisme, si on veut faire un capitalisme humain qui prenne en cause, qui prenne en à bras-le-corps, oui. Les problématiques écologiques, je pense que ce n'est pas... Il faut revoir complètement le capitalisme humain, le capitalisme écologique, le capitalisme dans toute sa splendeur aujourd'hui. Et quel économiste aujourd'hui peut réformer ce capitalisme? En tout cas, je n'en connais pas beaucoup. C'est la grande question de ce siècle, ce nouveau capitalisme. Qu'est-ce qu'il devient? Comment on le réforme, comment on modère, comment on a un capitalisme humain?
Il y a un vaste mouvement qui est en train de se faire.
Vous
dites élever le débat, on l'élève.
Si vous dites il faut agir dans un cadre multilatéral ou ne pas agir, eh bien, à ce moment-là, on n'agira pas. Parce que le multilatéralisme suppose que tout le monde soit d'accord. Or, à chaque fois, vous pouvez faire des COP 21, des COP 22, des COP 28, on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Donc peut-être que le cadre de l'État-nation est un cadre cohérent à peu près pour faire une avancée, peut-être pas pour renverser la table, doute, mais il y a quelque chose, si vous voulez, à exploiter.
La table, l'environnement n'a pas de frontières. C'est un peu le problème.
Alors, un de nos auditeurs, Eric, nous rappelle que ce projet bioraffinerie huile de palme de Châteauneuf a été signé sous François Hollande et c'est Nicolas Hulot qui l'avait validé. C'est vrai que l'amendement a porté en réalité sur la fiscalité qui entoure, on va dire, ces biocarburants à l'huile de palme. Je me tourne vers vous, François Boulot. C'est 80 millions d'euros à la louche. Hein. Au fond, c'est pas négligeable au moment où il est demandé à tout le monde de faire des efforts dans ce pays.
Oui, bien sûr, mais en fait, vous avez beaucoup de choses aujourd'hui qui écœurent les gens. Vous avez le budget de l'Élysée qui est augmenté de 2 millions d'euros. Vous avez les indemnités de logement des députés qui passent de 900 à 1200 euros. Bon, au moment où on demande effectivement à tous les Français de faire des efforts, ça commence à faire beaucoup. Et donc cet exemple des 70 ou 80 millions d'euros qui sont donnés, entre guillemets, à Total, c'est un exemple de plus de ce que en haut, eh bien, on arrive à amasser toujours plus. Et en bas, pour tout le reste de la population, on demande toujours des sacrifices.
Les carburants étaient au cœur des préoccupations premières, hein, il faut le rappeler. On va parler des gilets jaunes dans la deuxième partie de France Info. François Boulot, on est au cœur finalement des préoccupations des Français, pas seulement en termes de portefeuille, hein, de vie quotidienne, mais aussi de développement durable.
Oui, bien sûr. Alors sur la question de la taxe sur le carburant, il est clair que ce qui a suscité l'indignation des gens, c'est qu'on essaie de les faire passer pour des anti-écolos. Hein, je parle des gilets jaunes évidemment, alors qu'ils disaient mais attendez, avant de nous taxer nous qui n'avons déjà pas beaucoup de moyens, les taxes c'est le kérosène des avions, le carburant des bateaux, etc. Enfin, aller taxer déjà ceux qui ont les moyens de payer. Et ensuite, pour élever le débat, comme on a essayé tout à l'heure, effectivement, le capitalisme, quoi qu'il en soit, doit être régulé. Et donc, le libre-échange généralisé absolu, qui est la dérégulation en réalité des échanges mondiaux, est un modèle qui est mort, qui est fini.
Et il y a surtout, il n'existe pas en fait. Mais regardez,
il vient d'y avoir un retournement depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis. Je défends pas la politique forcément d'Emmanuel Trump, mais on voit bien un retour.
Donald Trump,
qui fait un retour au protectionnisme. Et effectivement, on n'a pas réussi dans le multilatéralisme. Peut-être qu'il faut revenir au cadre des États-nations, qui pour essayer de réguler, faire un protectionnisme qui n'entraîne pas non plus des guerres commerciales, mais de faire un protectionnisme intelligent, essayer de négocier, mais de réguler. En tout cas, tant qu'on ne régulera pas, vous aurez une explosion des inégalités, et donc des riches toujours plus riches, alors, et un déclassement des classes moyennes.
Éric Delama, pour répondre à François Bouleau, ce modèle de, on va dire, de libéral mondial n'existe pas selon vous ?
Il n'existe pas. Le libéralisme existe, il a été régulé pendant très longtemps. Donald Trump fait du protectionnisme mais le dérégule complètement. En France, le capitalisme est très régulé. Il est très régulé.
Dans le cadre de l'Union européenne.
Et aujourd'hui, il y a un mouvement très important, je le sais puisque j'y participe, de mettre en place une espèce de capitalisme qui soit un capitalisme à impact. Il y a la loi Pacte qui essaie d'instaurer la notion d'entreprise à mission, qui a mis en place dans les statuts des entreprises la notion de raison d'être qui va faire en sorte qu'on ne fasse plus en sorte que l'entreprise ne soit pas au seul profit des actionnaires, mais prenne en compte les enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux. Ce projet-là, il est porté au niveau international. Il y a une initiative au niveau gouvernemental sur le 10% pour changer, justement pour faire en sorte que ce capitalisme à un impact positif soit porté par la France au niveau européen. Enfin, intéressez-vous à la politique du gouvernement, vous allez voir qu'il y a des choses qui se font.
Mais quels sont les effets coercitifs de ce projet de loi Pacte, par exemple?
Comment on oblige les actionnaires,
les dirigeants à effectivement prendre en compte?
Mais obliger, c'est effectivement pas sur. Vous ne pouvez pas obliger des
propriétaires. Bien sûr que si.
C'est un autre débat.
Ça s'appelle des sanctions, en fait. Ça s'appelle la loi. Mais c'est justement ce que je reproche à Emmanuel Macron. C'est que quand il s'agit de prendre aux gens, c'est obligatoire, mais quand il s'agit de donner, c'est toujours aléatoire. C'est le cas de la prime exceptionnelle, aléatoire pour les gilets jaunes.
C'est simplement pour dire que le capitalisme n'est pas contre l'environnement. Le capitalisme se réforme pour faire en sorte qu'il soit au service de l'environnement.
Par nature, il est. Il n'y a que la loi et l'intérêt général qui peut effectivement sortir de la logique du profit et donner l'intérêt général.
Toute la différence entre les décisions qui sont coercitives et incitatives, mais on ne va pas passer une heure là-dessus. 20h20 sur France Info. Tout d'abord, rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
Première bougie pour les Gilets jaunes, l'anniversaire du mouvement marqué par des appels à réinvestir les ronds-points et à défiler dans les grandes villes. Plusieurs milliers de personnes devraient défiler dans les rues de Paris. Ce n'est pas cohérent avec le plan climat que j'ai engagé. Réaction de Nicolas Hulot après l'amendement au budget 2020 adopté sans débat hier soir à l'Assemblée nationale. Amendement pour prolonger de 5 ans l'avantage fiscal sur les biocarburants à base d'huile de palme. Il devait à l'origine s'arrêter en 2021. Un nouveau vote doit se tenir ce soir à la demande de Matignon. Ils avaient laissé leur bébé de 22 mois mourir de faim. La cour d'assises de la Creuse a condamné les parents de Gabin à 17 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en 2013. La colère ne s'essouffle pas. En Algérie, nouveau défilé aujourd'hui, deux jours avant le début de la campagne pour l'élection présidentielle du 12 décembre. Un scrutin massivement rejeté par les manifestants. Et puis en rugby, ouverture de la Champions Cup. Le stade toulousain se déplace sur la pelouse des Anglais de Gloucester. Coup d'envoi à 20h45.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Avant d'évoquer Ségolène Royal, juste ce commentaire que je vous soumets de Nicolas Hulot, qui était donc de face au public, tout à l'heure au Conseil économique, social et environnemental, et qui a évoqué son passage au gouvernement. Roselyne Fabre, il a dit « Ministre d'État, ça ne sert à rien, il aurait fallu... » un vice-premier ministre qui aurait fait autorité, expliquant qu'il a été confronté régulièrement, notamment au ministre de l'Agriculture. C'est un petit peu un constat de d'échec.
Oui, bah alors s'il veut changer la Constitution, il fallait un vice-premier ministre, pourquoi pas. Mais à ce moment-là,
un statut de vice-premier ministre.
Oui, mais enfin, vice-premier ministre ou ministre d'État, je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, j'ai le sentiment en écoutant Nicolas Hulot, parce que je l'ai un peu écouté, que dans un certain sens, il est un peu magnanime avec le gouvernement en disant bon, c'est peut-être une boulette ce qui s'est passé, mais j'ai le sentiment qu'il garde beaucoup d'amertume sur non pas sa propre petite personne, je ne suis pas sûr, mais qu'il ait eu du mal à ce dont on parlait tout à l'heure, à ces confrontations, à ces incohérences, à ces intérêts divergés qui existent au sein d'un gouvernement.
Allez, on va évoquer Ségolène Royal qui va porter plainte pour diffamation après l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France, selon laquelle l'ambassadrice des pôles utiliserait pour sa propre fondation les moyens que le Quai d'Orsay met à sa disposition. Il est question de ses collaborateurs payés par le ministère des Affaires étrangères. Et nous avons interrogé tout à l'heure sur France Info Ségolène Royal. Ses salariés du Quai d'Orsay ont-ils accompli des missions pour le compte de votre fondation Désir d'avenir pour la planète? Écoutez les propos qu'a tenus Ségolène Royal.
Ça fait des années que de nombreux proches, que je suis entourée d'équipes, de gens qui travaillent avec moi depuis des années. Mais ils le font sur leur temps libre, ils le font bénévolement. C'est un travail associatif, c'est un travail citoyen. C'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on n'a pas le droit de donner son temps pour des associations, pour des ONG, pour faire du travail humanitaire. C'est quand même extravagant. On devrait les féliciter au contraire de faire ce travail sur leur temps libre. On accuse même dans cette enquête, à partir de témoignages anonymes, belle méthode, que, soi-disant, je me déplacerai pour mon livre aux frais du ministère. Mais c'est scandaleux. Interrogez mon éditeur Fayard. C'est les maisons d'édition qui prennent en charge tout ce qui concerne les déplacements concernant la promotion de mon livre. C'est même écrit ça, c'est même dit dans l'enquête.
Franck de Dieu, votre regard sur les révélations de la cellule d'investigation de Radio France?
Elles sont tout de même très troublantes. Vous en avez longuement parlé. Elle assure sa défense. Après tout, elle a le droit. Moi, je considère quand même que pour ligne de défense, elle a... En gros, deux points. Premièrement, c'est de dire, c'est quand même bizarre, ça tombe au moment où je suis à gauche, la personne le recourt. Donc, si vous avez eu au moins une annonce de candidature en guise de ligne de défense. Premièrement, ça me paraît un peu fragile. Et puis, deuxièmement, elle dit, bon, écoutez, faire des déplacements, on dit qu'elle n'est pas allée au Conseil de l'Arctique. Elle dit, faire des déplacements, le problème, c'est que ça brûle du carbone. Donc, c'est-à-dire, utiliser l'argument environnemental pour justifier le fait qu'elle ne se rende pas au Conseil de l'Arctique, ça me semble un peu léger comme ligne de défense. Après, elle utilisera cette défense et c'est après tout à fait normal et légitime.
François Boulot, c'est à l'avocat que je m'adresse. C'est une bonne ligne de défense selon vous?
Très franchement, l'avocat, il peut se prononcer que quand il connaît le dossier. Oui. Donc, moi, tant que j'ai pas vu la pièce, je peux pas dire si la stratégie est la bonne ou pas. Mais ce que je peux dire en tant que citoyen, c'est que très franchement, c'est typiquement le genre d'affaire, établi ou pas, il faudra creuser, mais qui écœure les Français. On a eu De Rugy il y a quelques temps. Il y avait eu Fillon pendant la campagne présidentielle.
L'ambassadrice pro bono, c'est-à-dire pour le bien public, donc elle n'est pas payée.
Il y a une enveloppe qui est mise à sa disposition.
Elle a 100 000 euros. Pas tous en même temps.
Il y a quand même des deniers publics qui sont mis à sa disposition mettre en œuvre sa mission. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une problématique d'utilisation de l'argent public qui parfois est un des fins personnels. C'est en train de tuer la démocratie parce que ça crée de moins en moins de confiance vis-à-vis de la représentation politique. Et donc, il est temps en fait qu'il y ait des règles structurelles de transparence qui soient mises en œuvre pour qu'on n'ait pas des affaires comme ça qui sortent du chapeau
et
que tout se fasse en toute transparence.
Non, mais la transparence, elle se décrète pas, elle se construit. Il y a une loi qui a été voté en 2018 pour faire en sorte de moraliser la vie
publique.
On ne peut pas réformer un pays qui a fonctionné d'une certaine manière pendant 30 ans, on ne peut pas le faire en 2 ans et demi. Je veux dire, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a des gens qui attendent que Emmanuel Macron résolve les problèmes qu'on n'a pas traités pendant 30 ans. Et la transparence en fait partie. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, la petite sympathie que j'ai par rapport à Ségolène Royal, c'est qu'il y a une habitude depuis quelques mois maintenant, depuis 2 ans et demi, pour le dater à peu près, de créer des affaires de toutes pièces en essayant de salir les gens. Enfin, De Rugy en est le dernier exemple dont on a prouvé qu'en fait tout ce qu'on a lui reproché n'était pas vrai.
Donc, néanmoins,
c'est quand même vraiment important de savoir à quoi sont utilisés les 100 000 euros qu'on lui a mis à disposition.
Il y a quand même Madame Belloubet qui a omis de déclarer trois biens immobiliers dans sa déclaration.
Moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que Ségolène Royal, c'est quelqu'un qui ne reste jamais inactif. Et c'est un peu comme Jacques Lang, vous lui donnez un secrétariat d'État à rien et elle devient ministre de tout. Donc c'est quelqu'un qui se démultiplie. La chose que je voudrais rajouter, c'est que tout de même, il y a un problème. C'est dommage qu'elle n'aille pas quand même aux réunions du cercle artistique. Parce que c'est un domaine stratégique, comme vous le savez, c'est un potentiel extraordinaire. Avec la fonte des neiges, on se rend compte qu'il y a des richesses inépuisables qui sont comme le gaz naturel. Et d'autre part, je finis, le réchauffement des glaces fait qu'il y a une exploitation possible. Et surtout, il y a aussi un danger sanitaire parce que si ça fond, il y a des problèmes de bactéries qu'on ne connaît pas, qui vont peut-être naître. Et je trouve que c'est un enjeu, vraiment un domaine stratégique. Et il faut qu'elle soit à ces réunions.
Merci Roselyne pour cette intervention. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite des Informés de France Info.
Communication à caractère promotionnel.
La Française des Jeux entre en bourse. Aujourd'hui, vous pouvez investir dans une entreprise performante, en croissance et utile à tous, avec environ 3,5 milliards reversés chaque année à la collectivité.
Entrez dans l'histoire, entrez dans le capital de FDJ.
Devenez actionnaire jusqu'au 19 novembre.
L'attention du public est attirée sur les facteurs de risque, dont le risque de perte en capital, figurant dans le prospectus approuvé par l'AMF. Disponible sur le site internet de la société et de l'AMF. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Info Météo, avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
Les prévisions d'Élodie Calac pour Météo France.
Encore perturbé à l'ouest ce soir avec des pluies ou des averses et même parfois un petit peu de neige entre la région parisienne et la Normandie. De la neige à basse altitude entre l'Ariège et l'Aveyron. Demain matin, il restera des averses sur ces régions, surtout sur l'Aquitaine avec de l'orage. Il neigera sur le nord-ouest du Massif central et le Limousin vers 400-600 mètres. L'après-midi, de petites éclaircies se dessineront. Les averses se cantonneront au sud de la Loire. Elles seront nombreuses et orageuses sur le sud-ouest. De l'est des Pyrénées vers la vallée du Rhône et le nord-est, là on aura des éclaircies, du brouillard le matin. Des Alpes à la Corse, quelques averses, plus fréquentes et orageuses en Corse l'après-midi. Il fera toujours frais, moins 2 à 4 degrés le matin, un peu plus près des côtes. L'après-midi, souvent 5 à 11 degrés et jusqu'à 15 sur le sud-est.
minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Une semaine après le séisme qui a touché la vallée du Rhône, les élèves du Teil en Ardèche, la commune la plus sinistrée, reprendront progressivement le chemin de leurs écoles, collèges et lycées lundi, annonce l'Académie de Grenoble. Quant à l'État, il débloque 2 millions d'euros pour la reconstruction des infrastructures publiques dans la commune. Le gouvernement met le turbo sur les délocalisations de fonctionnaires. Ce matin, lors d'un comité interministériel de la transformation publique, le Premier ministre Édouard Philippe a pris la parole, annonçant que 6000 agents de l'État seront redéployés de Paris ou des grandes métropoles régionales vers les banlieues ou les zones rurales d'ici à 2022. C'est deux fois plus que prévu initialement. Grégoire Le Callot.
Les 2500 à 3000 fonctionnaires de Bercy, dont le redéploiement avait été annoncé par le ministre Gérald Darmanin, ne seront donc pas les seuls à faire leur carton. Le Premier ministre a évoqué 40 opérations de relocalisation de services de l'État. Parmi les 6000 agents qui seront concernés, il y aura surtout des mouvements depuis Paris vers les régions et vers l'Île-de-France, surtout en Seine-Saint-Denis. D'autres fonctionnaires seront redéployés des métropoles régionales vers les communes rurales ou en périphérie des grandes agglomérations. Ainsi, par exemple, Guérande, dans Loire-Atlantique, accueillera des services informatiques du ministère de l'Éducation nationale. Tours, Rennes et Orléans, des éléments de l'état-major des armées. Aubervilliers, Ivry-sur-Seine, Saint-Étienne, Nantes ou Saint-Cyr-sur-Loire sont aussi cités. Et la liste n'est pas close. Les communes qui voudraient des fonctionnaires peuvent encore poser leur candidature. Mais les intéressés risquent d'être moins enthousiastes. En 2008, Nicolas Sarkozy avait voulu transférer 650 statisticiens de l'INSEE de Paris à Metz. 10 ans plus tard, l'objectif a été presque divisé par deux et il a fallu recruter certains fonctionnaires sur place.
Grégoire Le Callot, le système pour protéger les femmes ne fonctionne pas, déclaration de Nicole Belloubet, interrogée sur la mort d'une femme de 40 ans sous les coups de son mari et sous les yeux de sa fille en Alsace la semaine dernière. Pour la garde des Sceaux, les policiers et les gendarmes ne travaillent pas assez rapidement avec la justice. 17 ans de réclusion criminelle pour les parents du petit Gabin devant les assises de la Creuse. Le bébé avait 22 mois lorsqu'il est mort de faim en 2013, la peau sur les os d'après les experts. De nouveaux suspects arrêtés dans l'enquête sur un projet d'attaque contre Emmanuel Macron en novembre 2018. Il devrait être mis en examen par un juge antiterroriste dans les heures qui viennent. À 48 heures de l'ouverture de la campagne de la présidentielle prévue le 12 décembre, les Algériens sont à nouveau descendus massivement dans la rue aujourd'hui pour dire non à ce scrutin qu'ils accusent d'être destiné à régénérer un système politique dont ils veulent se débarrasser. Un sommet sur le conflit dans l'est de l'Ukraine, il aura lieu à Paris le 9 décembre prochain. Il réunira autour d'Emmanuel Macron le président russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel ou encore le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Enfin, ce nouveau pic de marée haute à Venise, trois jours après avoir été dévasté par des inondations records. La place Saint-Marc est restée fermée plusieurs heures ce vendredi. Le gouvernement italien avait décrété hier l'état d'urgence pour catastrophe naturelle dans la cité des Doges. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, deuxième partie, Jean-François Aquili.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, Éric Delannoy, économiste, président fondateur du cabinet Tenzing, et avec François Boulot, avocat, porte-parole des Gilets jaunes à Rouen et auteur de La Ligne jaune, parue aux éditions Les Indigènes, les Gilets jaunes, ou du moins ce qu'il reste du mouvement, fête donc ce week-end leur premier anniversaire avec comme un rappel de ce que nous avons vécu semaine après semaine, l'évocation, et oui, du dispositif policier qui sera déployé sur tout le territoire, à commencer par les Champs-Élysées à Paris. Laurent Nouniez, le secrétaire d'État à l'intérieur, aux 4 vérités sur France 2 ce matin.
Le dispositif est adapté à ce que nous avons, à la connaissance que nous avons de la mobilisation, qui, encore une fois, vous avez raison de souligner, qui a un intérêt un peu plus marqué. Et donc, les forces de l'ordre seront là pour encadrer ce mouvement, comme d'habitude. Et sur les Champs-Élysées, le préfet de police prendra évidemment un arrêté d'interdiction de manifestation sur les Champs-Élysées, sur d'autres secteurs stratégiques de la ville de Paris, et notamment au plus près des institutions.
François Boulot, de ce que vous en savez, il y aura une mobilisation particulière ce samedi et ce dimanche d'ailleurs également pour fêter, si je puis dire, cette année de Gilets jaunes.
Bon, je crois pas qu'on puisse parler d'anniversaire, mais effectivement la mobilisation...
Une date anniversaire, on va dire.
Oui, c'est une date anniversaire. Je pense que la mobilisation va être assez suivie parce que la colère est toujours là, elle est même plus grande qu'il y a un an, parce que depuis, tous les gens qui se sont mobilisés ont vu que le pouvoir leur mentait, les brutalisait, les méprisait. Il n'y a pas eu de réponse aux revendications qui se sont portées et Emmanuel Macron parle du mouvement maintenant au passé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gilets jaunes parce que je peux vous assurer que pas un n'est rentré chez lui satisfait des mesures qui auraient été prises par le pouvoir exécutif. Vont se mobiliser pour signaler au pouvoir que non, ils sont toujours là, que la colère est toujours là, que les raisons de la colère existent toujours. Notamment, vous avez eu 500 000 pauvres de plus en 2018, les impôts n'ont pas baissé.
Mais vous diriez que le mouvement a muté aujourd'hui, ce n'est plus le même, il n'y a plus ces concentrations fortes de gilets jaunes dans les rues semaine après semaine, ce n'est plus la même chose.
Évidemment que vous avez une baisse de la mobilisation au fil des semaines, pour deux raisons principales. La première, elle tient à la fatigue, c'est les gens, ils ne vont pas par plaisir tous les samedis sacrifier leur vie personnelle et consentir des sacrifices financiers. Et puis ensuite, et surtout, et ça c'est quand même assez inquiétant dans notre pays, c'est que vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peur d'aller manifester au risque de perdre une main ou un œil. Oui, mais vous avez un petit sourire, mais attendez, vous avez quand même le Conseil de l'Europe, Amnesty International, l'ONU, qui ont adressé des sermons à la France pour atteinte aux droits de l'homme. Ouais. Aujourd'hui, j'ai quand même honte parce que vous avez les pays d'Amérique latine et les dirigeants autoritaires qui citent la France en exemple. Hier, on l'a cité parce que c'est la patrie des droits de l'homme. Aujourd'hui, on la cite en exemple pour justifier qu'au Chili et en Équateur, on a aussi éborgné des manifestants.
Roselyne Fèvre, que diriez-vous de la mobilisation aujourd'hui des Gilets jaunes ?
Aujourd'hui, elle est en phase effectivement d'extinction. Alors, elle perdure parfois de manière gentille et sympathique sur des ronds-points, on le voit en région. Le problème de ce mouvement, c'est qu'au début, il a été plutôt intéressant. Ça a été un peu ce mouvement du troisième type qui est né spontanément, qui était très protéiforme, où on a vu qu'il refusait les mains tendues des politiques, des syndicalistes. Donc, ils sont restés assez, on va dire...
Authentique.
Oui. Et après, je trouve que le mouvement s'est muté en une espèce de colère brute, de violence. Les Black Blocs sont venus prêter main forte et c'est parti un peu dans du grand n'importe quoi, avec des thèses complotistes. On ne lit plus les journaux, on rejette la presse classique et entre amis, on s'envoie des fake news sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. On a vu émerger des personnalités un peu, pardonnez-moi, mais pas toujours... très très maline. Voilà, le truc s'est un peu muté en une chose un peu, on va dire...
Vous partagez ce point de vue, Franck de Dieu ?
Non, pas du tout. Alors, Roselyne disait, il y a quelque chose de spontané. Oui, il y a quelque chose de
au
spontané.
Début, mais oui, qui était formidable chose... non, et qui a permis à Macron de muter quand même.
Au début, il y a quelque chose de spontané, mais pas tout à fait non plus. C'est-à-dire que ça dit quelque chose de beaucoup plus fondamental. Tout cela c'était un état d'esprit, une volonté de ne plus être relégué, qui flottait dans l'air depuis bien longtemps. Enfin, tout cela a été assez bien théorisé et su d'ailleurs autour des équipes de Emmanuel Macron, qui voyaient très bien qu'il y avait un désir de la part de ces gilets jaunes. Et je crois que le mot gilet jaune, ça dit quelque chose. Il s'agissait d'être vu. C'est-à-dire que les relégués socialement, culturellement, économiquement voulaient être vus. Et être vus, c'est avec un gilet fluorescent la rue. Et dire aussi que cette sécession des élites, qui est largement documentée, je pense à Christopher Lasch dans les années 90, cette sécession des élites, eh bien, à un moment donné, les gilets jaunes, ce bloc un peu populaire, a dit de façon spontanée, mais également de façon plus fondamentale, ça suffit. Oui. Cette sécession, elle a une limite.
Alors, Éric Delannoy ne s'est pas exprimé encore là-dessus pour vous. Vous partagez le point de vue de ce qui est dit à l'instant par Franck Zidane.
Ce sera bien la première fois.
Non, ce ne serait pas la première fois, mais je vais partager une partie de ce que
vous avez acquiescé, c'est pour ça que je vous pose la question.
Oui, absolument, c'est que je suis d'accord pour dire que le mouvement d'initiation, initialement, c'est un mouvement qui était un révélateur de quelque chose qui couvre depuis encore une fois 30 ans.
Enfin, toute une France déclassée, quand même.
Objectivement, quand vous réécoutez le discours de Chirac de 95 sur la fracture sociale, c'est les ferments des gilets jaunes. C'était exactement ce à quoi ça aboutit. Et il y a eu quelque chose qui a mis le feu aux poudres, enfin deux en fait, qui n'étaient finalement que des symboles. Pourquoi des symboles ? Parce que la taxe carbone, c'était vraiment pas grand-chose. Et le 80 km/h, c'est encore pire. Et pourtant, ça s'attaquait à une forme de sentiment d'incompréhension, notamment de la ruralité. Et donc moi, je suis d'accord pour dire que c'est un mouvement qui n'est pas du tout spontané, mais qui s'est organisé depuis bien longtemps et qui est en fait une explosion de quelque chose qui couvait depuis très longtemps. Là où je ne suis pas d'accord, c'est que le mouvement des gilets jaunes a un an. Le mouvement des gilets jaunes, il avait eu quelques mois et il s'est transformé en quelque chose que
pour
moi,
vous,
je qualifie d'abject.
Il aura duré un an, c'est ça ?
Il n'aura pas duré un an. Il aura duré quelques semaines, quelques mois. Ouais. Et puis après, il a muté, effectivement. Enfin, je rejoins ce qui était dit sur, enfin, une violence. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Il y a des poncifs qui sont répétés à l'envi. C'est des slogans. Et en fait, on a le sentiment qu'il y a une volonté de prise de pouvoir pour en faire quoi ? On n'en sait rien. Pour quelles alternatives ? On n'en sait rien. Et je rappelle quand même que parmi les violences, les seuls morts qu'il y a eu par les gilets jaunes, enfin, dans le mouvement des gilets jaunes, c'est par les gilets jaunes. Il y en a eu 12. Hein.
Non, alors je suis obligé d'intervenir parce que les morts, ce sont des gilets jaunes, monsieur.
Oui, mais par les gilets jaunes, c'est des accidents de voiture, c'est des blocages de route,
des gens qui ne sont pas gilets jaunes qui ont foncé sur des gilets jaunes.
Je vous dis que les gilets jaunes sont pas morts, monsieur. Si, non, mais regardez, reprenez un par un. Le plus stupide étant d'ailleurs ceux qui ont tiré les grilles des Tuileries.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment se faire cette liste-là
un
petit peu morbide ce soir.
On est d'accord.
On va peut-être marquer une petite pause à 20h41 sur France Info. On revient sur le sujet, je vous rassure. Tout d'abord, le rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
190 000 foyers toujours privés de courant. La faute aux fortes chutes de neige ces 24 dernières heures. Plus de 40 000 foyers, notamment en Isère, 6 départements restent touchés par les coupures. Ségolène Royal portera plainte pour diffamation, annonce de l'ambassadrice des pôles sur France Info après les révélations de la cellule investigation ce matin, qui pointe notamment les missions parfois éloignées confiées à ses collaborateurs, certains par exemple mobilisés lors de séances de dédicaces. Russes et Ukrainiens invités à Paris le 9 décembre pour un sommet visant à régler le conflit dans l'est de l'Ukraine, explique le communiqué de l'Élysée. Discussion entre les dirigeants Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et Angela Merkel. Nouveau pic de marée haute à Venise. Trois jours après la montée des eaux records, la cité des Doges est à nouveau frappée par l'Aqua Alta. Le maire de la ville annonce la fermeture de la célèbre place Saint-Marc pour éviter tout risque sanitaire. Et puis deux confrontations franco-françaises ce soir en Challenge Cup, en Coupe d'Europe de rugby. Stade français Brive et Bayonne-Toulon, coup d'envoi dans moins de 5 minutes.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Que reste-t-il de l'esprit gilet jaune et de ses leaders? Je demanderai dans un instant à François Boulot s'il a la sensation lui-même d'avoir changé de peau hein, en quelques mois, en un an, il faut le dire. Tout d'abord, Benjamin Cauchy, il a été un porte-parole au départ du mouvement à Toulouse. Et il sera candidat aux élections municipales à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne. Écoutez ce qu'il disait, soutenu par Nicolas Dupont-Aignan. Écoutez ce qu'il disait ce matin sur France Info.
Je pense qu'il y aura du monde. Je ne dirais pas que je l'espère. Moi, ce que j'espère surtout, c'est que les Français se réveillent tous et qu'il y ait une révolution silencieuse par le bulletin de vote et par les urnes. Le meilleur moyen de pouvoir faire changer la donne politique à la fois à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle nationale, c'est de prendre son bulletin de vote et de jouer son rôle de citoyen. Et là, je peux vous assurer que ni Emmanuel Macron, ni Castaner, ni M. Nunes, qui est dans les locaux, je crois, à cette heure-là, ne pourront strictement rien faire face à une grande armée de citoyens qui ont envie d'agir le plus démocratiquement possible et pacifiquement.
Alors, il y a eu une multiplicité, on l'a dit mille fois, chez les leaders du mouvement des Gilets jaunes. François Boulot, c'est très intéressant ce que dit à l'instant Benjamin Cauchy. Est-ce qu'au fond, la meilleure arme, finalement, ne serait pas, quelque part, ce qui a été un petit peu raté au passage, c'est-à-dire une transformation de ce mouvement en quelque chose de plus organisé, notamment dans les urnes, plus politique?
Alors, juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste dire que le discours qui consiste à expliquer que le mouvement aurait muté au fil du temps est totalement faux. En réalité, ça, c'est le récit du gouvernement.
Je tiens pas le récit du gouvernement. Je vais m'exprimer peut-être de façon plus précise.
Non, mais je vous ai dit, je réponds pas directement à votre question là. Je voulais simplement répondre à monsieur tout à l'heure qui disait que le mouvement avait évolué. Ça, c'est le récit du gouvernement après le grand débat, en fait, comme Emmanuel Macron a dit, c'est terminé, j'ai donné tout ce que j'avais à donner, il fallait plus entendre parler du mouvement. Moi, je suis sur le rond-point des vaches, notamment. Les gens sont les mêmes qu'initialement. Vous voyez, j'ai pas muté de gens qui étaient gentils à maintenant des hordes de sauvages, etc. Donc pour ça n'a pas bougé. Mais je veux dire qu'il y avait des mesures constructives qu'on avait proposées. J'avais participé à une émission. On avait dit, écoutez, le CICE, on peut peut-être le réserver aux PME parce qu'il y a 20 milliards qui sont captés par les grandes entreprises. Ces grandes entreprises, elles suppriment des emplois, elles délocalisent depuis des années et des années. De la même manière, la réforme de l'ISF telle que vous l'avez faite vous a permis aux spéculateurs d'être exonérés et non pas aux investisseurs. Il fallait concentrer les exonérations aux investisseurs. Et donc aujourd'hui, on est dans une stratégie où je pense qu'il y a un objectif de court terme. C'est la grève. Moi, j'ai toujours dit que le seul moyen légal et pacifique de pouvoir mener un rapport de force pour arrêter le massacre de cette politique, c'est la grève. Il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre le 5 décembre. J'espère, moi, qu'elle sera suivie. Et puis ensuite, il y a l'objectif à moyen long terme, c'est 2022, parce que la seule élection qui compte dans ce pays, c'est l'élection présidentielle. Et là, il faut travailler, essayer de politiser les gens, élever le niveau de conscience pour que demain...
Ce qui n'a pas été le cas.
Mais c'était trop tôt. En fait, les élections européennes ne servaient à rien, parce que quand vous êtes au Parlement européen, vous n'avez aucun pouvoir. De toute façon, la politique de l'Union européenne, elle se décide à la Commission en fonction des arbitrages qui sont faits entre les pouvoirs exécutifs nationaux.
Ouais. Franck de Dieu.
Un mot simplement pour dire qu'effectivement, il y a quelque chose politiquement qui a paru un peu bazardique, mais c'est un petit peu intrinsèque au mouvement, parce que ce mouvement, à la différence des autres, il n'y a pas d'affiliation sociale classique, droite, gauche, syndicat, ce sont des désaffiliés, dit Christophe Guilly dans Marianne, ce sont des orphelins. Donc, soyons un peu indulgents, ce côté un petit peu protéiforme est contenu et est intrinsèque et dans la nature même de ce mouvement. Deuxièmement, en ce qui concerne, et pour terminer, en ce qui concerne l'incohérence. Alors on dit, oui, vous comprenez, il y avait une forme d'incohérence dans leurs revendications, ils voulaient des augmentations de dépenses publiques et des baisses d'impôts. Ah ben non, on peut pas faire les deux en même temps. Sauf que c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron dans son budget. Il a augmenté les dépenses publiques, tant mieux, il a baissé les impôts, lesquels on verra. Mais en tout cas, cette logique de déséquilibre budgétaire résolu par le recours à la dette, entre nous, c'est quelque chose qui se fait partout, dans tous les pays du monde. Et les Britanniques sont en train de voter sur des programmes qui sont sur cette ligne-là, que ça soit de droite ou de gauche. Ouais. Donc, essayons d'être un peu plus modestes, de faire moins de mépris de classe, et de se dire, il y avait quelque chose finalement de cohérent économiquement qui peut prendre effectivement une allure un petit peu tohu-bohu.
Alors je rappelle deux des enseignements de notre enquête au Doxa, Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro, révélé hier, à savoir que 7 Français sur 10 estiment que le mouvement des Gilets jaunes était ou est justifié, et les Français pensent bien que ce mouvement des Gilets jaunes leur a profité et a servi les catégories populaires, selon notre enquête en question. Éric Delannoy, il y a eu ces 10 plus 7, c'est 17 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement. Il est peut-être question de ça, d'ailleurs, au bout
mais
du voyage.
C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les représentants des Gilets jaunes aujourd'hui prétendent qu'il n'y a pas eu de réponse, en fait. Une réponse, il y en a eu, elle a été massive. Elle a été massive en termes de baisse d'impôts, elle a été massive en termes d'annonces autour de réévaluation d'un ensemble de minima. Il y a un plan pauvreté qui fait 8 milliards d'euros qui est en train de se mettre en place. Je pourrais citer une vingtaine, certainement d'ailleurs plus que vous, qui ne semblez pas connaître les mesures du gouvernement. Alors là, si vous voulez qu'on fasse le catalogue, je l'ai préparé. Donc je veux peut-être pas ennuyer ça avec tout le monde. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que la réduction des zones blanches, c'est-à-dire une espèce de reconquête des zones rurales dans lequel il y a eu effectivement un vrai problème de désertification des services publics des zones rurales. Il va y avoir une réponse avec les maisons France Service. Bah, en revanche, on peut toujours hausser le ton. Croyez-vous que la fracture sociale dont on parle va se résoudre en 2 ans? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce qui est revendiqué par les Gilets jaunes aujourd'hui, on ne peut pas le faire en moins de 10 ans. Il faut juste l'accepter et il faut reconnaître les petits pas qui sont faits.
Vous dites qu'il faudra du temps, quoi qu'il arrive.
Bien sûr qu'il faudra du temps. Et parce qu'il y a des choses qui se font, il y a énormément de choses qui se font.
La dynamique est catastrophique. La croissance s'est effondrée en 2018 et 2019. Il y a 500 000 pauvres de plus en 2018.
Mais
il y a 500 000 pauvres de plus en 2018.
C'est un slogan, ça.
Et les 17 milliards, mais c'est très court, les 17 milliards, ils sont financés soit par une augmentation du déficit public, soit sur le budget de la sécurité sociale. Ce qui fait que soit c'est des impôts différés pour la classe moyenne, soit c'est une baisse des dépenses publiques toujours. On voudrait que ce soit les ultra-riches qui payent. Les ultra-riches, ils ont eu 30 milliards de cadeaux fiscaux. Vous dites non, c'est l'ISF, la flat tax,
c'est sur un mode revanchard. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous ne regardez pas les chiffres, vous regardez les opinions.
Est-ce que vous contestez les chiffres?
Oui, absolument. Je conteste tous les chiffres que vous avez donnés.
On n'arrivera pas à vous réconcilier ce soir. Je vais vous soumettre ce qu'a dit tout à l'heure sur France Info. C'était au 18h50 sur notre antenne. Roland Lescure, qui préside la commission des finances à l'Assemblée nationale et qui est le co-rapporteur de la mission Impact Gilets jaunes sur le coût du mouvement.
C'est des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Au total, ça fait sans doute 800 millions, 1 milliard. Mais le problème, ce n'est pas la macroéconomie.
Vous nous dites ce soir que ça a coûté 800 millions d'euros, 1 milliard d'euros.
Malheureusement, c'est une estimation qui n'est pas définitif, parce qu'il y a des répliques. Les gens qui ont perdu du chiffre d'affaires en début d'année ou au printemps, c'est quand ils vont clôturer leur compte fin 2019 qu'on aura l'étendue des dégâts. Mais au minimum, on a eu des commerces qui ont dû fermer. On a des compagnies d'assurance qui ont dû verser 200 millions d'euros de dommages. Il y a des municipalités qui ont dû réparer le mobilier urbain, on parle de 40 millions. Il y a plus de 40 millions d'heures supplémentaires pour les policiers et les gendarmes. Tout ça, c'est un coût. Et moi, ce qui m'importait dans cette mission qu'on a portée, de manière transpartisane d'ailleurs, c'était de donner la parole à cette partie-là de l'équation. Les gens qu'on n'a pas beaucoup entendus. Le samedi, sur toutes les antennes, on voyait beaucoup les gilets jaunes, on voyait un peu moins ceux qui en souffraient.
François Boulot, vous convenez qu'il serait temps que cette forme-là de contestation, qui a quand même bloqué le pays, s'arrête?
Mais sur la forme, à la limite, c'est plutôt la violence, moi, qui m'embête, qui me dérange. Je suis triste de voir des affrontements entre des policiers et des manifestants et que vous ayez des blessés des deux côtés. Je pense que cette forme-là, effectivement, elle n'est pas souhaitable. Ensuite, sur le coût quand même du mouvement, on sait que l'INSEE nous indiquait que la croissance en 2018 avait connu un rebond grâce précisément aux 10 milliards qu'Emmanuel Macron avait concédé en creusant quand même le déficit public. Mais je vous l'ai dit, moi, sur la forme, l'objectif est de parvenir à la grève, un blocage de l'économie pendant une semaine ou deux, une bonne fois pour toutes. Comme ça, la réforme des retraites ne passera pas, parce que la réforme des retraites, c'est encore appauvrir tout le monde. Vous prétendez que les pensions vont augmenter avec la réforme des retraites?
On va évoquer justement, vous tombez à pic, on va évoquer justement ce sujet-là dans un instant, à 20h50 sur France Info, juste après ce rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
Le coût du mouvement des Gilets jaunes estimé entre 800 millions et 1 milliard d'euros, estimation du député La République En Marche Roland Lescure, interrogé sur France Info à l'occasion du premier anniversaire de la mobilisation. Des rassemblements sont annoncés un petit peu partout dans l'Hexagone ce week-end. Un second vote face au tollé. Les députés se penchent ce soir sur l'avantage fiscal accordé aux biocarburants à base d'huile de palme. L'avantage devait s'arrêter en 2021. Il a été prolongé de 5 ans hier soir à l'Assemblée nationale lors d'un vote sans débat. Pas de cours à la fac de Nantes aujourd'hui. La direction a appelé les étudiants à ne pas se déplacer suite à un blocage de plusieurs bâtiments. Nouvelle mobilisation pour dénoncer la précarité étudiante. Les frappes sur Gaza ont fait des victimes civiles inattendues. Terme utilisé par l'armée israélienne, l'armée cible depuis plusieurs jours des positions du djihad islamique. Les frappes ont hier tué 8 membres de la même famille. Habib Jemli, nouveau premier ministre de la Tunisie. Sa candidature a reçu l'approbation du président tunisien, âgé de 60 ans. Est membre du parti islamo-conservateur Ennahda. Il doit désormais composer son équipe gouvernementale d'ici un mois.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Une bonne grève, disait à l'instant François Boulot. Y a-t-il convergence possible, ou du moins des points communs entre les Gilets jaunes et les mobilisations qui se dessinent le 5 décembre? Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, invité de l'instant politique sur France Info.
Et la preuve en est, c'est que dans beaucoup de départements, peut-être que vous le mesurez pas suffisamment, mais il y a des mobilisations communes, il y a des tracts communs. Et puis je crois que, me semble-t-il, un certain nombre de Gilets jaunes appellent à se mobiliser avec les syndicats le 5 décembre.
Oui, on en parlera.
Donc vous voyez que les choses, elles évoluent, et c'est naturel. Chacun a appris à se connaître, et je pense que, pour une grande part, on est en phase sur un certain nombre de choses.
Roselyne Fèvre, c'est le scénario du pire pour le gouvernement, ça?
Oui, bien évidemment, on va voir ça demain, mais je voudrais dire trois choses. Dans le fond, ce que ça a fait naître...
La convergence le 5 décembre. Hein.
Oui, bien sûr, le 5 décembre. Bah, c'est la crainte, je crois que le gouvernement est assez lugubre là-dessus, sur cette perspective, et très inquiète. D'ailleurs, je crois que le Premier ministre a dit ça va tanguer. Donc il y a une peur, évidemment, de cette conjonction de luttes, de ce magma, on va dire, des luttes. Alors, convergence des luttes, ça ne me plaît pas tellement comme expression, mais en tout cas,
des citoyens.
De conjonction de demande. Je pense qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes ont été basés sur un triptyque qui est le désespoir, et ce désespoir des classes moyennes inférieures, on le voit aussi même aux États-Unis, on le voit un peu partout, donc ça, c'est pas seulement en France. Il y a cette violence aussi qui se déclare avec les Black Blocs, et il y a surtout, dans ce triptyque, il y a la défiance. C'est-à-dire que tout ce que raconte l'élite, on n'y croit plus. Les gens n'y croient plus. Pour preuve, d'ailleurs, sur la justice, regardez cette actrice qui a refusé de porter plainte parce qu'elle n'a pas confiance en la justice. Donc il y a tout un pan de la société qui ne croit plus à l'élite. Et aussi, je crains que... il y a une autre chose, c'est que le champ politique est complètement dévasté aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plus de droite, la gauche et la droite ne proposent rien, et il y a un duel organisé entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et donc le champ social a tout investi, et le champ social devient une sorte de champ de mine, parce que il y a plus d'idées qui se confrontent dans l'espace politique, et le terrain social devient ce terrain d'affrontement.
Éric Delannoy, sur ce scénario évoqué par monsieur Philippe Martinez, à savoir le 5 décembre, peut-être une sorte d'appel
converger. Il en rêve. Il y avait une réforme contre laquelle il a essayé de s'élever, qui était la réforme de la SNCF. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il y a eu les Gilets jaunes qui ont effectivement déclenché quelque chose. Et encore une fois, l'origine des Gilets jaunes était justifiée. Simplement, moi, ce que je regrette, c'est que c'est un mouvement qui a légitimé la violence comme méthode de négociation. Et ça, de mon point de vue, en tant que républicain, je trouve ça insupportable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une radicalité d'action où on n'est pas dans une volonté de négociation, on est dans une volonté de destruction. Quand je dis destruction, je parle pas seulement des biens, je parle aussi des idées et je parle aussi des mécanismes politiques. Donc ça, on ne peut pas le cautionner. Donc effectivement, on peut être très inquiet, parce que l'esprit de revanche qu'il y a chez un Martinez ou qu'il y a dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est celui, on est dans l'affect le plus total et on n'est pas dans le rationnel. Aujourd'hui, sur la réforme des retraites, il n'y a pas une réforme depuis 30 ans qui n'a pas fait l'objet d'une plus grande négociation, celle-là, qui n'est d'ailleurs pas terminée. Rien n'a été décidé concernant la manière dont on va le faire. Et pourtant, on prétend que tout est fait et les retraites vont baisser et c'est une catastrophe, etc. Je rappelle juste un point, si on devait s'aligner sur les retraites de la RATP, on ne serait pas à 16% du PIB, on serait aux alentours de 25. Ce qui veut dire que ce n'est pas tenable.
Franck de Dieu, oui, Roselyne Fèvre, rapidement.
Non, je pense qu'il y a une gilet jaunisation aujourd'hui. Oui, oui, je me lance dans un mot compliqué, de la société, parce que il y a eu cet espoir. Certaines, aujourd'hui on voit l'hôpital, les policiers, les pompiers, sont dans le même espoir de la même issue, c'est-à-dire que l'argent, le président mette de l'argent sur la table.
Ça fait très longtemps qu'on entend parler de convergence des luttes.
Je ne parle pas de ça, moi.
Oui, mais évidemment, Martine Saint-Rêve, moi, je m'aperçois que pour l'instant, on a plutôt des micro-convergences sectorielles, par exemple, au niveau des agriculteurs. Vous avez la FNSEA, la Confédération Paysanne, d'autres qui se sont un petit peu mobilisés, coagulés contre le CETA, contre des revendications très particulières. Est-ce qu'on a une méta-convergence des luttes? Je ne crois pas. Dans ce milieu de la gauche, c'est plutôt
le principe freudien du
narcissisme, des petites différences, où finalement, comme on pourrait exister par rapport à quelqu'un qui pense presque comme nous, on a tendance à grossir un peu nos différences et nos dissensions. Donc, j'ai du mal à le croire cela. En revanche, je serai à la place du gouvernement, et bien, j'essaierai avant le 5 décembre, et c'est le cas notamment d'un pas mal de rangs de la majorité, de faire quelque chose, de prendre les devants avant le 5 décembre.
Justement, pour conclure, vous irez manifester, j'imagine, François Bouleau, ce week-end?
Oui, bien sûr. Notre combat, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, c'est pas le désordre. C'est le retour au respect de la devise républicaine. C'est notre combat.
Et notre auditrice, Hélène, qui me demande pour... C'est vraiment à la fin des informés. Rond-point des Vaches, où ça se trouve?
C'est à Saint-Étienne-du-Rouvray, juste à côté de Rouen.
Le Rond-point des Vaches. Merci infiniment, François Bouleau. Merci, Éric Delannoy, d'avoir participé à ces informés. Merci, Roselyne Fèvre. Et Franck de Dieu, la une de Marianne.
Violence urbaine, on dit ça suffit et on poser tous les problèmes sur la table, sans tabou, sans non-dit.
Sur toutes les,
on en discute,
toutes les violences urbaines.
Toutes les violences urbaines et puis toutes les solutions pour qu'elles n'aient plus lieu.
Merci à tous les quatre d'avoir participé à ces informés de France Info. Nous vous retrouvons demain soir avec Neila Latrousse. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bonsoir.